Koh-Lanta, les quatre terres, c'est déjà la réunification et les équipes n'existent plus, il n'y a plus qu'une seule équipe et une seule religion, le mérite. Salut, c'est Damien et bienvenue pour cet épisode de réunification, c'est le 8e d'Autour du Feu et avec moi, toujours une très 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 grosse team, avec quelqu'un que vous réclamiez, que vous admirez, que vous adorez, quelqu'un qui vous détend, quelqu'un qui vous donne des bonnes vibes comme ça, qui vous permet de vous endormir le soir. C'est quelqu'un qu'on aime beaucoup et qu'on est très content d'avoir avec nous. C'est Gino. Salut Gino.
Salut Damien, salut tout le monde.
Est-ce que t'as aimé cet épisode ?
Pour être très honnête, pas vraiment. Il y a eu vraiment un faux rythme pendant tout l'épisode. Après, je sais pas si c'est vraiment de la faute de la prod parce que d'habitude, un épisode de réunification, il y a soit quelque chose d'important qui arrive au moment des ambassadeurs, soit un conseil qui est un minimum plein de suspense. Et là, bah, dans les deux cas, il y avait zéro suspense. Donc je sais pas si c'est trop de la faute de la prod ce montage, mais on a quand même eu un gros sentiment de euphorie pendant tout l'épisode qui était assez désagréable.
Je l'aurais pas mieux dit, honnêtement, non. C'est vrai que moi aussi, bon, cet épisode était moyen plus, quoi. C'est qu'on s'attendait peut-être à pas mal de rebondissements. On en a eu assez peu. Donc voilà, on espère que ça va se décanter dans les épisodes à venir. Ensuite, quelqu'un qui est aussi déjà intervenu, qui est aussi un petit peu notre saltimbanque, notre troubadour, notre trouvert d'ADF avec ses jeux de mots chamarrés et bigarrés. C'est Madargine, salut.
Salut Damien, salut à tous. Et puis ouais, je suis content de pouvoir commenter ce magnifique épisode de réunification de maintenant Koh-Lanta à une terre, puisqu'il n'y a plus qu'une équipe, donc on va voir ce qu'il y a beaucoup à dire là-dessus.
Alors, même question qu'à Gino, est-ce que t'as bien aimé l'épisode ?
Bah pas plus, non, pas. Je veux dire, c'est vrai qu'on s'est un peu ennuyé quand même. C'est-à-dire, effectivement, dans les ambassadeurs, on n'a pas de drama. Pour le conseil, non seulement on n'a pas tant de drama que ça, et en plus, on est sur un schéma qu'on a vu des dizaines de fois dans Koh-Lanta, je veux dire les jaunes contre les rouges. Alors, il y a encore un petit peu d'espoir, mais c'est vrai que c'est pas un épisode qui m'a rendu très très optimiste pour la suite.
Et ensuite, on est très content donc qu'il revienne. Après, il était déjà là dans deux épisodes. Il est entraîneur de foot. Il a pas mal de choses à dire sur la psychomotricité. Donc, je pense qu'il aura encore d'autres choses à nous dire sur d'autres sujets parce que il est un peu comme ça, multicarte. C'est notre ami Wilson. Salut Wilson.
Et salut Damien. Comment ça va ?
Moi, ça va, du coup. Et toi, qu'est-ce que t'as pensé de l'épisode ? Est-ce que t'es de l'avis de nos deux autres, de Gino et de Madar ?
Alors, si ceux qui ont entendu la semaine dernière savent que cet épisode m'a fait très mal au cœur, je pense. Mais on en parlera plus loin. Mais ouais, quasiment le même avis exact. Il y a beaucoup de choses à dire et on a l'impression que toutes les attentes des quatre terres vont finir par s'estomper dès les premiers épisodes de la réunification. Mais on verra si ça sera le cas, mais il y a une belle impression que ça va l'être.
On commence donc par l'épreuve de confort. Cette épreuve qui était celle des coffres. Des coffres, en gros, il fallait les nouer. Il fallait les nouer de la manière la plus ardue possible. Et au final, ce sont, je crois, les jaunes qui ont gagné grâce à Dorian, encore une fois. Et je vois dans le chat des gens qui disent « épreuve complètement naze ». Et ça, justement, je voulais avoir votre avis là-dessus, parce que c'est vrai qu'on les a vus essayer de dénouer la caisse là pendant quelques temps. Et Denis Brognard dit que ça faisait 10 minutes, Brice sur Twitter a dit que ça avait fait 1h30, mais au final, tout ce twist est complètement cassé par la décision, le changement de règle, d'aller chercher une petite machette pour aller découper purement et simplement la corde. Donc tout ça n'aura servi à rien, et tout ça pour gagner des petites pâtisseries. Par exemple, tiens, Madar, qu'est-ce que t'as pensé, toi, de cette épreuve ?
Bah, le début de l'épreuve était sympa, je veux dire, le coup avec les nœuds, voilà, on s'appuie sur l'ingéniosité des candidats, sur c'est de trouver d'aller un peu sur d'autres qualités que juste le physique. Donc le départ était très prometteur, puis effectivement, ben, voilà, ils n'ont pas anticipé que quand les nœuds sont super compliqués à défaire, ben, ça bloque l'épreuve. Alors on ne sait pas si c'est 10 minutes ou 1h30, mais c'est vrai qu'on part d'un truc où on était censé partir sur de l'ingéniosité, finalement on part sur une course à pied entre Dorian et Brice, en sachant que de toute façon on sait que Dorian est meilleur à ça. Je lui ai dit on peut faire 36 000 courses à pied entre les deux, ça sera toujours le même résultat, donc ça n'avait absolument aucun intérêt, et puis ça fait que le début de l'épreuve n'a aucun intérêt non plus. Et la récompense, ben, quelques pâtisseries, franchement. Ben, surtout qu'en plus, ça a été dit même dans l'émission, c'est que quand on a la dalle, qu'on n'a pas mangé depuis 20 jours, ben, manger un truc très sucré, d'une part, ça sert à rien sur ça n'a pas grand chose sur le plan de survie, puis en plus ça écœure plus qu'autre chose, quoi. Donc voilà, non, je pense que malgré des bons éléments, finalement, à peu près tout était raté dans cette épreuve pour moi.
Gino.
Alors, concernant l'épreuve, je vais être un petit peu moins dur, c'est-à-dire que si jamais ce que dit Brice est vrai, et je le crois à 100%, 1h30, on ne peut pas continuer comme ça, il faut bien trouver une solution à l'arrache. Et malheureusement, la course à pied, bah, c'est souvent un peu la solution par défaut dans Koh-Lanta. Donc, pour le coup, je comprends que la prod ait voulu faire ça. Après, j'aimerais rebondir là-dessus, c'est que j'ai l'impression que on voit de plus en plus souvent, que ça soit dans Koh-Lanta ou même dans la version américaine Survivor, des épreuves qui sont écourtées avec des changements de règles parce que la production a pour envie de rester pendant des heures. Et je trouve que c'est vraiment, vraiment dommage dans la plupart des cas. Là, ils ne pouvaient pas faire autrement. Dont acte. Mais j'ai l'impression que c'est quelque chose qui arrive de plus en plus souvent. Et j'ai l'impression que c'est quelque chose qui ruine, par exemple, beaucoup d'épreuves d'endurance. Et c'est quelque chose qui me déplaît fortement. C'est-à-dire que si jamais la prod veut partir sur une épreuve d'endurance, il faut qu'elle assume son idée jusqu'au bout. Et j'ai l'impression que parfois, la prod n'ose plus aller au bout de ses idées. Bon, peut-être que ça coûte moins cher et qu'on n'y connaît rien en production télévisée, mais c'est souvent une grosse déception pour moi. Et je pense que je ne suis pas le seul parmi les téléspectateurs.
Wilson ?
Alors, il y a un mot qui me fait penser à cette épreuve, c'est, enfin, une phrase, c'est aveu de faiblesse de la part de la prod. Ils ont pas, ou alors ils ont pas assez bien préparé, ils se sont dit que ça allait passer. Je suis sûr que c'était une solution, cette machette, de dernier recours. Il fallait qu'elle arrive, parce que sinon ils seraient restés sur ce coffre jusqu'à l'éternité, peut-être. Mais du coup, ça veut dire quelle préparation, comment ils ont préparé l'épreuve ? Il y a une erreur dans la conception. Et effectivement, le fait de devoir tout jouer sur un joueur qui va courir, choper une machette et revenir, et au final tout est nœud, peu importe comment ils étaient, si tu coupes la corde, il n'y a plus lieu d'être, c'était un peu dommage quand même. Donc je ne sais pas s'il y avait une autre solution, je ne sais pas si la prod en avait vraiment marre, mais comme dit Gino, c'est une preuve qu'il y a eu un souci, que la prod ne va pas jusqu'au bout de ses idées, et là c'est la preuve complète de ça.
Et du coup on va passer direct aux ambassadeurs. Donc c'était aux équipes de déterminer qui allait être les ambassadeurs, et c'est tombé sur Loïc et Adja. Et je crois que Gino, t'as pas mal de choses à dire justement sur ces ambassadeurs et sur les stratégies à adopter.
Alors oui, je vous ai préparé un petit sujet, enfin petit, je pense que vous me connaissez là, à force. Donc là, ce n'est pas spécifiquement sur les ambassadeurs de cette saison, c'est sur le concept en général. Donc en fait, le petit sujet que je voulais faire, c'était de voir si les ambassadeurs étaient plutôt un avantage pour le jeu stratégique ou un détriment pour le jeu stratégique. En effet, c'est parce qu'en traînant un petit peu vendredi soir sur le serveur pendant la diffusion de l'épisode, le serveur Discord autour du feu que je recommande d'ailleurs chaudement à tous les fans qui nous écoutent mais qui n'y sont pas déjà, j'ai pu constater que ce concept des ambassadeurs, qui est d'ailleurs un concept assez propre à Koh-Lanta, on ne le retrouve pas vraiment dans les versions étrangères, c'est un concept qui ne fait pas l'unanimité parmi les membres du serveur. En effet, c'est que bien que l'équipe d'ADF défende avec ferveur le fait que Koh-Lanta, c'est avant tout un jeu complexe qui repose sur ces quatre dimensions que sont la survie, le social, le sport, la stratégie, il faut reconnaître que une grande majorité des membres qui viennent sur notre Discord, ce sont des adeptes avant tout du jeu stratégique. Ce qui n'est honnêtement pas du tout étonnant, vu que la dimension stratégique, c'est un petit peu le vilain petit canard des 4S de Koh-Lanta dans le public général. Donc, quand ils nous entendent, ils voient un petit peu un refuge pour eux. Et en effet, pour revenir aux ambassadeurs en eux-mêmes, c'est que si les ambassadeurs sont vécus comme un moment fort par le public général de Koh-Lanta, les adeptes de stratégie sont beaucoup plus divisés là-dessus. Parce que les ambassadeurs, c'est à la fois une opportunité stratégique, mais aussi une variante du jeu qui vient pourrir les meilleurs plans. Et c'est ces deux visages que je veux aborder aujourd'hui. Alors, je vais commencer par les points négatifs. Ça me semble mieux dans ce sens-là, parce qu'on a une bonne partie de nos auditeurs qui ne sont pas forcément des fanatiques de stratégie, et qui ne voient donc pas forcément le problème que ça peut avoir sur cet aspect du jeu. Donc en fait, en ce qui concerne la stratégie, toute altération au format pose la question du rapport entre son intérêt stratégique et sa capacité de nuisance. En effet, une bonne stratégie, pour être efficace au maximum, ça doit reposer sur un plan à long terme. Et un plan à long terme, ça bénéficie beaucoup d'une structure de jeu stable et prévisible. Toute altération à cette structure est de nature à diminuer l'efficacité du plan, et donc à rendre une approche stratégique moins attractive. Si, bien entendu, la dite altération n'apporte pas un bénéfice direct à la stratégie. Pour vous donner un exemple autre que les ambassadeurs, par exemple, pour nous, les épreuves éliminatoires sont anti-stratégie. Parce que, dans une épreuve éliminatoire, l'imprévu, qui est l'élimination d'un candidat sur ses capacités physiques et parfois de raisonnement, puisque les épreuves éliminatoires sont souvent conçues de manière à ne pas être purement physique, cet imprévu, il n'est compensé par aucun mécanisme valorisant la stratégie. C'est tout au plus un coup de chance si jamais ça bénéficie d'un stratège. A l'inverse, on considère que les mélanges d'équipes sont plutôt propices à la stratégie car, même s'ils font dévier du plan, ils font sortir de la logique rouge contre jaune systématique, et ça laisse plus de place à la créativité des joueurs doués en stratégie. Donc du coup, c'est une altération qui, même si elle modifie les plans, elle a tendance à plaire aux fans pro stratégie. De ce fait, d'un point de vue de la recherche de l'épanouissement du jeu stratégique, on voit a priori les ambassadeurs comme un danger jusqu'à ce qu'ils prouvent leur valeur en termes de stratégie. Et pour le coup, nos amis les ambassadeurs, ça souffre d'une sorte de délit de faciès colantesque. C'est-à-dire que, comme on l'a vu dans cet épisode, le comportement qui est valorisé quand on recherche un bon ambassadeur pour son équipe, c'est d'être prêt à aller au tirage au sort. Or, le fait d'aller bêtement au tirage au sort, c'est anti-stratégique au possible, puisqu'on se retrouve avec une élimination qui n'est pas causée par une considération stratégique. Donc du coup, on se retrouve avec l'équivalent d'une épreuve éliminatoire. De plus, l'idée de suivre systématiquement cette idée d'aller au tirage au sort, ça renforce la perpétuelle confrontation jaune contre rouge de la mythologie de Koh-Lanta que j'aime tant mettre en avant. En effet, là où la réunification, par exemple dans la version états-unienne Survivor, chez eux, c'est l'occasion d'arborer des bandanas flambant neufs d'une nouvelle couleur, symbolisant cette tribu unique, et de discuter avec les adversaires d'hier autour d'un bon petit repas de célébration offert par la production. Koh-Lanta, à l'inverse, on joue sur la confrontation. Les bandanas restent salis de la couleur d'origine, il n'y a pas de festivité organisée, et surtout, si on suit la logique du tirage au sort, la première image qu'on a de l'équipe d'en face, c'est une bande de jusqu'au boutistes qui ont envoyé le héros de notre tribu au jury, ou qui au moins eu le toupet de risquer de le faire. Dans un tel contexte, il faut beaucoup plus de temps pour rapprocher les candidats. Et beaucoup plus de temps pour rapprocher les candidats, c'est énormément de temps perdu en stratégie. En ayant ça à l'esprit, a priori, c'est difficile de blâmer les... femmes pro-stratégie pour avoir un a priori défavorable de l'altération du format que représentent les ambassadeurs. Mais plutôt, j'ai bien parlé d'un délit de sa gueule, parce qu'en effet, j'ai tendance à penser que cette apparence de concept anti-stratégie, ce n'est vraiment qu'une apparence, et que la réalité du terrain offre des perspectives beaucoup plus intéressantes. En effet, si l'image que tout le monde a en tête, c'est celle du sacrifice héroïque, force est de constater que c'est un cas très minoritaire depuis que la règle de la mort subite a été implantée. En effet, si on exclut les deux éditions All-Star où les ambassadeurs ont été adossés à une épreuve, ce qui les rend totalement hors de comparaison des éditions plus régulières, on a 10 cas de consensus et 4 cas de tirage. Et sur ces 4 cas de tirage, on a une utilisation stratégique du tirage, qui est l'œuvre de Romain dans la saison 15 Thaïlande, pour sortir Cassandre et ses deux colliers par la même occasion. Donc au fond, en 14 tentatives, le sacrifice héroïque qui semble être la norme n'est survenu que 3 fois. Ça montre une nette distorsion entre la mythologie et la réalité. Alors comment expliquer cette distorsion ? D'abord, on peut l'expliquer tout simplement par l'évidence. C'est que le fait de dire qu'on est capable de sacrifier, c'est pas la même chose que de le faire. Beaucoup de joueurs n'aiment pas risquer leur place une fois au pied du mur. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on n'a presque jamais d'égalité après le deuxième vote à Survivor, puisque dans Survivor, le tirage au sort ne se fait pas entre les concernés par l'égalité, mais entre tous les autres candidats. Ce qui fait que quand on veut bloquer le jeu, c'est sa peau qu'on risque, c'est pas celle de la personne à égalité. Et donc, il y a forcément le même mécanisme chez les ambassadeurs. Il y a également à mettre en cause les systèmes de désignation. En effet, ce n'est pas rare que, dans Koh-Lanta, on fasse une petite modification, qui est que ce n'est pas la tribu qui désigne son ambassadeur, c'est l'adversaire. Et dans ce cas-là, le but devient complètement l'inverse. Viser quelqu'un dont on sait qu'il peut livrer un des siens en pâture et pas un jusqu'au boutiste. Et quand on se retrouve face à un candidat qui a soit été bien choisi par la tribu adverse, soit qui a surestimé son courage, alors là, les ambassadeurs, ça devient très, très propice à la stratégie. En effet, on a la stratégie très basique qui est de laisser le candidat le moins enclin à aller au tirage piocher un sacrifice dans sa tribu. Ça permet de gagner un nombre sans trop s'exposer, ça permet de ne pas trop vexer la personne en question, et ça permet de s'offrir une grosse aura auprès des siens. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé dans cet épisode, puisque Loïc n'a pas du tout cédé face au bluff d'Adja, ou la saison dernière quand Ahmad s'est retrouvé au pied du mur face à Claude et Moussa. En soi, stratégiquement, c'est peu emballant, mais c'est une option qui est très efficace et très respectable. Mais ça peut aussi aller plus loin, en n'acceptant pas n'importe quel nom face à un adversaire complètement paniqué pour réaliser un énorme coup. Et là, l'exemple que tout le monde a en tête, c'est bien entendu la manière dont Cédric a totalement retourné le cerveau de Jeff pour évincer Alban dans Koh Lanta Johor, la saison 14. Cédric, qui était d'ailleurs notre invité dans le podcast de l'épisode de réunification de la dernière saison, que je vous invite tous à écouter si vous n'avez pas déjà fait. Il y a aussi une autre possibilité sur les saisons impliquant un mélange de tribus. C'est celle d'avoir deux ambassadeurs complices au lieu d'avoir deux ambassadeurs en confrontation. Et là, ça offre un coup libre aux deux complices. Mais c'est un coup libre qui est subtil, parce qu'ils doivent au mieux dissimuler leur forfait pour ne pas eux-mêmes devenir des cibles au conseil suivant. Et on pense ici bien entendu au duo Dylan-Yassine dans le combat des héros. Et il y a bien entendu les coups tordus qui sortent de ce cadre-là selon les circonstances. Les coups où il faut savoir improviser avec talent. On peut penser à ce que j'ai déjà dit tout à l'heure, le tirage de pierre de Romain pour éliminer Cassandre et ses deux colliers. Mais on pense évidemment à l'exceptionnelle performance de Sandro face à Mathilde dans la saison 17 Cambodge, où Sandro avait feint une mise en difficulté pour à la fois subtiliser le collier de Mathilde tout en sacrifiant à Yacine qu'il ne croyait pas un seul instant fiable pour la stratégie de sa tribu. Du coup, même si les ambassadeurs ont une apparence antistratégique, les enjeux et circonstances propres à chaque saison peuvent en faire un fantastique terrain d'expression pour les candidats stratèges. Il y a, pour Koh Lanta, il y a 4 S. Pour les ambassadeurs, il y a 2 I. Intimidation, improvisation. Et c'est comme ça qu'on peut retourner le jeu avec encore plus de force qu'un collier d'immunité.
Je pense qu'on va rester vraiment sur cette dernière phrase. Koh Lanta, c'est les 4 S. Les ambassadeurs, c'est les 2 I. Improvisation et intimidation, c'est encore très très bien dit, Gino. En ce qui concerne justement tout ce que tu viens de dire, je vais demander ce que en pensent Wilson et Madar. Je vais commencer par Wilson.
Alors, encore un très beau travail de Gino. J'étais bercé par ses paroles. Mais j'ai pris un peu de notes sur ce qu'il a dit pour réfléchir quand il dit que l'ambassadeur est antistratégique. Bon, il fait la thèse-antithèse. Mais moi, je pense que l'ambassadeur, c'est un twist qu'on connaît. C'est un twist qu'on sait qu'il va arriver. C'est vrai que ces dernières saisons, bon, entre les trois ambassadeurs de la guerre des chefs et les doubles ambassadeurs de chaque côté dans l'île des héros, il y a eu des petits changements. Et on ne sait jamais si on va choisir dans notre équipe ou on va choisir dans l'autre équipe, c'est déjà arrivé. Mais c'est quelque chose de prévisible. Donc un stratège doit prendre ça en compte quand il fait son plan de jeu. C'est pas comme un colis qui peut sortir à n'importe quel conseil. Les ambassadeurs, on sait qu'ils arrivent juste avant la réunification. Donc ça fait quelque chose de stratégique quand même à utiliser, même si il peut être parfois utilisé de manière antistratégique, mais on l'a vu, c'est pas si courant que ça. Ensuite, je trouve que la gestion des ambassadeurs, c'est ce qui fait le plus défaut aux joueurs qui y vont et qui font un mouvement stratégique. On a vu que Sandro a eu du mal après les ambassadeurs. Cet épisode-ci le montre encore une fois. Quand tu fais un choix fort ou un choix de sacrifice aux ambassadeurs, il faut savoir gérer derrière ce que tu viens de faire. Et c'est aussi important, c'est autant social que stratégique de savoir gérer ce genre de mouvement. Par contre, je suis extrêmement d'accord sur un des points, c'est sur le fait que les ambassadeurs, à l'inverse, comme disait Gino de Survivor ou des versions étrangères, mettent les deux équipes dos à dos au lieu de les mettre face à face pour qu'ils se réunissent. Mais tout Koh Lanta fait ça. Les gens, quand ils arrivent sur Koh Lanta, ils sont déjà dans une mentalité équipe contre équipe. On l'a vu avec le riz des rouges, où Joaquina dit « moi, je veux les affaiblir », alors que ce riz peut être aussi une bonne occasion de dire « ok, j'arrive vers l'autre équipe, je crée un lien ». Et c'est important. Surtout que quand ils sont à égalité avant les ambassadeurs, une des deux équipes ne sera pas à égalité. Et on sait très bien que tout le monde ne peut pas arriver à l'orientation. Et sinon, le seul twist que moi je pense qui devait être tout le temps utilisé sur Koh Lanta, c'est que les ambassadeurs soient choisis par l'équipe d'en face. Effectivement, ça augmente un peu l'imprévisibilité et ça augmente un peu les choix forts aux ambassadeurs. Mais sinon, encore une fois, un très très beau travail de Gino.
Madar.
Effectivement, moi aussi, je vais être d'accord sur l'ensemble de ce qu'a dit Gino. Ce que je vais ajouter, c'est que si les fans comme nous, on n'aiment pas trop les ambassadeurs, effectivement, il y a ce côté très très injuste de ce rebondissement, de ce twist. Et en plus, on est sur, c'est une anomalie dans une saison de Koh-Lanta, les ambassadeurs. C'est-à-dire, même si on sait que ça arrive toutes les saisons, ça répond à des règles qui sont complètement différentes de tout ce qui se fait habituellement dans le jeu. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup qui n'aiment pas. Mais là, il faut voir qu'il y a un décalage entre les fans et la production. C'est-à-dire que les fans, ils veulent toujours un jeu où il y a un minimum d'équité quand même. Alors que ce soit une équité sportive pour ceux qui sont un peu plus casual, qui sont plus intéressés par le sport, ou une équité stratégique pour les fans un petit peu plus acharnés comme nous. Alors que la prod, elle, ce qu'elle cherche, c'est à faire de bons moments de télé. C'est-à-dire que Koh-Lanta, c'est pas une compétition juste, c'est une émission de télévision. Et c'est vrai que les ambassadeurs, souvent, c'est un très très bon moyen de faire du drama. Je veux dire, on a vu à la dernière saison, avec Delphine qui nous a sorti tous les proverbes qu'elle connaissait, et je veux dire, ça a créé de très très bons moments de télé, et du coup, ça a été une réussite totale pour la production. Un échec épouvantable pour Ahmad, une justice immense pour tous les candidats qui n'étaient pas des anciens candidats, mais pourtant, ça a fait un très bon moment de télé. Et voilà, et du coup, la production a besoin de ce genre de ressort, surtout avec le fait qu'on mette les équipes dos à dos, qu'on a cette mentalité, on est dans une équipe plus qu'on est dans une saison où chacun est individuel. Du coup, la production cherche tous les moyens, plutôt que de remettre en cause ce schéma-là, de faire en sorte qu'il y ait des éliminations en dehors de ce schéma-là. Et c'est pour ça qu'on a tous ces ressorts pour relancer l'intérêt de l'émission. Tout ce qu'il y a après la réunification, il y aura l'épreuve éliminatoire, il y aura les binômes, il y aura l'épreuve de tir à l'arc, qui est aussi très 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 injuste. Voilà, c'est juste histoire de rendre l'émission plus dynamique. Donc ça aussi, il faut comprendre que entre les fans et la prod, on regarde pas tous la même chose. Nous, on regarde une émission avec une compétition et on analyse les stratégies des candidats. Et la prod, elle essaie de nous mettre des bons moments de télé. Et si les candidats doivent être éliminés injustement, tant pis. C'est le business, c'est comme ça.
Alors, pour cette saison, les ambassadeurs mettaient aux prises Loïc chez les jaunes et Adja chez les rouges. La stratégie des rouges était de faire en sorte que Adja puisse intimider la personne en face, surtout genre une Alix qui est très forte, mais qui manque quand même de confiance en soi. Et elle est tombée sur Loïc qui est le gentil garçon qui est prêt à tout pour son équipe et qui était prêt à y aller. Et Adja n'a pas eu d'autre choix que de se rabattre sur Marie-France. Marie-France qui a une très très bonne réaction parce que Adja lui avait dit que si elle devait choisir un rouge, elle allait la voir en lui disant que ce serait elle qui choisissait. Donc elle savait très très bien à quoi s'attendre. Alors j'aurais aimé savoir justement sur précisément ces ambassadeurs-là. Qu'est-ce que vous avez pensé des choix de Loïc, d'Adja en tant qu'ambassadeur et ensuite du choix de Marie-France en tant qu'éliminée lors des ambassadeurs Du coup, on va faire à l'envers, on va repartir sur Wilson.
Alors, moi, je trouve que les jaunes ont très 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 bien choisi. Si je suis dans l'équipe des jaunes, je ne peux pas choisir un autre joueur que Loïc, qui est ce joueur prêt à aller jusqu'au bout. Même Laurent est complètement dépité en se disant « mais ne fais pas ça ». De l'autre côté, Adja, il y a aussi ce côté « il faut se mettre en avant ». On sait que c'est se mettre en avant d'aller aux ambassadeurs. On sait que c'est risqué. Tous les gens qui regardent Koh-Lanta savent que ceux qui vont aux ambassadeurs prennent des risques, pas seulement sur la boule noire, mais sur la suite de leur aventure. Mais Adja a été honnête. Elle a dit ce qu'elle allait faire. Bon, ça lui a quand même retombé dessus. Peut-être que c'est pas exactement les ambassadeurs qui lui sont retombés dessus. Mais elle a été honnête, et surtout Marie-France, c'est un choix logique, c'est pas le choix que j'ai préféré en tant que spectateur, mais c'est un choix que j'aurais sûrement fait à la place d'Adja. C'est un choix consensuel, et tu es un peu obligé de faire un choix consensuel à ce niveau-là. Et sa réaction, c'est le jour et la nuit avec la dernière saison, c'est très très propre, c'est à l'image de son retour depuis qu'elle est revenue sur une décision médicale.
Gino.
Alors, sur les ambassadeurs de cette année, je dirais que le problème, c'est que d'habitude, ce qu'on aime bien dans les ambassadeurs, c'est le drama. C'est un petit peu quand il se passe quelque chose de manière assez irrationnelle. C'est-à-dire quand il y a du drama, quand par exemple aussi quand il y a une grosse manipulation, par exemple, on en a déjà parlé, mais la saison 14, quand Jeff se fait totalement retourner le cerveau. Et là, en fait, le petit souci des ambassadeurs de cette année, bah, c'est que tout était trop rationnel. C'est-à-dire que les jaunes, ils ont 1 million de fois raison de prendre Loïc. C'est-à-dire, voilà, s'il y a quelqu'un qui est prêt à se sacrifier à 100% et qu'on sent que c'est quelqu'un qui tiendra parole, oui, il faut le prendre. C'est la garantie que soi-même, on n'est pas visé. Donc, très bien. De l'autre côté, les rouges, je pense qu'Adja était un choix plutôt raisonnable. C'est-à-dire, comme je l'ai déjà dit, les ambassadeurs, il y a beaucoup d'intimidation et d'improvisation. Et en effet, Adja, sur la partie intimidation, je pense que c'est difficile de faire mieux. Après, ceci étant dit, est-ce que c'est la bonne idée de prendre quelqu'un qui a garanti qu'il n'irait pas au boule ? Ça, la réponse n'appartient qu'aux autres rouges. Mais disons que les deux choix sont plutôt rationnels. Une fois la réunion entamée, ben disons que en soi, Marie-France, ben, c'est un choix consensuel, ça évite du drama, donc c'est favorable à la fois à Loïc et à Adja. Donc voilà, c'est que j'ai l'impression que le problème de cette année, c'est que ben, sur les ambassadeurs, tout le monde a trop bien joué en fait.
Et enfin, Madar.
Eh bien, c'est un peu compliqué parce que c'est plus compliqué de répondre. Est-ce que les jaunes, est-ce que les rouges ont bien joué? Parce que encore une fois, les rouges et les jaunes, c'est pas des blocs complètement homogènes. Ça dépend de quel point de vue on se place. C'est-à-dire, bah, je veux dire, les rouges, ils ont bien fait d'envoyer Adja, oui, sauf qu'au final, c'est Marie-France qui sort. Donc Marie-France n'a pas bien fait de laisser Adja partir à sa place. Et que les jeunes, ils envoient Loïc, en se disant au moins lui, il ira au boule, enfin, c'est pas une bonne stratégie non plus, parce que si les rouges avaient envoyé Marie-France, Marie-France n'aurait pas vendu quelqu'un de sa tribu. Donc du coup, il serait allé au boule et peut-être que Loïc serait sorti. Donc en fait, ça dépend tellement de quel point de vue on se place. Alors c'est sûr que si on a une tribu qui est majoritaire et qu'on pense tenir cette tribu, ce qui semble être le cas de Alix et d'Orient, visiblement, bah c'est vrai que là, envoyer un fusible, c'est une bonne idée. Parce que effectivement, bah, la tribu restera majoritaire derrière, a priori. Alors que si, au contraire, on est la tribu minoritaire, bah, vaut mieux envoyer quelqu'un qui a une grande gueule. Le souci, c'est que Adja bah, était prête à vendre quelqu'un de sa tribu, elle a parfaitement raison, dans l'absolu. Mais derrière, bah, ça permet pas de retourner le jeu. Donc, c'est un peu compliqué, effectivement. Peut-être que Gino a raison. Peut-être qu'effectivement, le problème, c'est que tout le monde a trop bien joué et qu'au final, ben, tout ça, ça s'est annulé et que ça explique d'ailleurs qu'en plus, on a une élimination super consensuelle puisque bon, ben, Marie-France avait déjà été éliminée avant. Donc, finalement, c'était celle qui était la plus à même à accepter son élimination. Donc, ouais, est-ce que ces choix d'ambassadeur étaient les bons? Sans doute, mais ça dépend du point de vue de qui, en fait. Ça dépend du point de vue de quel candidat, parce que ben, là, pour l'instant, les rouges sont tous maintenant en difficulté. Ce qui pourrait sous-entendre que peut-être qu'ils n'avaient pas si bien joué que ça. Mais en même temps, qu'est-ce qu'ils auraient pu faire de mieux?
Donc, on poursuit avec la fameuse réunification. Et on sent que les gros personnages, un peu pour l'instant, de cette réunification, pardon, ce sont Dorian, Alix et Adja qui se met à dos beaucoup, beaucoup de gens, mais qui ne le disent pas forcément parce qu'elle est plutôt intimidante. Donc Adja qui met tout le riz des jaunes pour alors que effectivement il y en avait trop, qui commence à vouloir prendre de la banane que Fabrice avait donnée à Angélique et Lola. Moi, la peur que j'ai, justement, c'est qu'on se retrouve sur encore une polarité un peu basique entre anciens jaunes et anciens rouges, avec les anciens rouges qui tègent un par un. Et ouais, ça, avec quatre équipes, on pensait qu'on n'irait pas à ce genre d'extrémité, qu'il y aurait des choses, des rebondissements, des relations sociales un peu plus intéressantes. Là, c'est pour l'instant, du coup, on en prend le chemin. C'est ce qu'on voit juste avant, l'épreuve d'immunité. L'épreuve d'immunité, qui est un parcours du combattant, donc épreuve assez classique, très appréciée des fans, on va dire, du grand public qui aime Koh-Lanta. Vous, voilà, le parcours du combattant, c'est quelque chose qui vous plaît ou enfin, qui est plutôt sympa, dont vous pourriez vous passer? Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Tiens, bah, on va commencer par Madar.
Moi, pour dire très franchement, le parcours du combattant, c'est le moment où j'arrête de regarder la télé, en fait. C'est clairement c'est le moment où je le laisse en France Honneur, mais je vais regarder sur Twitter, je vais regarder les infos, je vais faire autre chose. Parce que pour moi, c'est une épreuve qui n'est pas intéressante, et puis on sait à peu près qui va gagner, quoi. Donc c'est pour ça que moi, c'est quelque chose. La fin de l'épreuve était plus intéressante. C'est-à-dire ce qui s'est passé après le parcours du combattant, là, c'était plus intéressant, il y avait un peu plus de suspense. C'était, même visuellement, je trouvais que c'était sympa aussi. Après, moi je suis pas du tout fan de cette épreuve. Bon, maintenant, c'est un grand classique, donc faut faire avec. Parce que, voilà, encore une fois, ça valorise uniquement la performance physique, alors qu'on a eu plein d'épreuves beaucoup plus intéressantes avant la réunification. Et voilà, et puis ça envoie cette idée, en plus, tiens, pour être un bon candidat de Koh-Lanta, faut remporter le parcours du combattant. Alors, j'ai pas regardé les stats là-dessus, savoir combien de candidats ont gagné Koh-Lanta en ayant remporté le parcours du combattant. Je pense pas qu'il y en ait tant que ça. Parce que, voilà, c'est en plus... quand tu gagnes le parcours du combattant, c'est bon, tout de suite, tu es complètement over, quoi. C'est-à-dire, tu te manifestes comme étant un des plus costauds de la saison, un des plus dangereux dans les épreuves, et tu te mets une énorme cible sur le dos. Alors, peut-être pas pour le conseiller qui va venir, mais peut-être pour le suivant, ou celui d'après, ou en tout cas, ça te met en difficulté à moyen terme, je pense. Donc moi, je suis pas du tout fan de cette épreuve, mais après, c'est vrai que ça peut être intéressant pour la suite des stratégies, pour mettre les cartes sur la table. Au moins, maintenant, on sait qui sont les candidats les plus dangereux et lesquels il faut éliminer.
Wilson.
Alors, moi, je me suis pris au jeu. C'est vrai que le parcours du combattant, c'est pas l'épreuve la plus sympa, c'est la plus sportive, la plus mono, on va dire, mono-caractéristique, genre... C'est, si t'es fort sportif et tu cours vite et t'es résistant, bah tu vas la gagner. Mais autant chez les femmes, j'ai pas été très hypé, autant chez les hommes, il y a eu ce comeback de Loïc qui, moi, m'a fait beaucoup de plaisir. Qui m'a vraiment fait plaisir parce que je me suis pris au jeu, je me suis pris au jeu de voir, ouais, de voir Loïc, comme on dit ici sur le chat, et Dorian qui se fait coiffer au poteau, mais vraiment, c'était très tendu et ça faisait longtemps. Moi, je me souvenais pas de très récemment d'une épreuve. D'un parcours du combattant aussi serré. Et la deuxième partie de l'épreuve, par contre, très sympa. On a vu plusieurs fois presque gagner, puis ça repart à zéro. Le jeu était vraiment sympathique et très télégénique. Et ça m'a plu. Après, on ne peut pas passer à côté. Le parcours du combattant, il sera là. C'est un peu comme les ambassadeurs. C'est un peu comme toutes ces choses de la mythologie Koh-Lanta qu'on n'apprécie pas forcément, mais qui font partie du jeu et qu'on doit accepter. Et on sait qu'elle sera là. Donc, autant qu'elle soit un petit peu épique, c'est toujours sympa.
Et enfin, Gino.
Alors, je suis d'accord avec Wilson sur le fait que le parcours du combattant s'est trop imprégné dans la mythologie de Koh-Lanta pour s'en passer, quoi. C'est-à-dire, au bout d'un moment, le public général attend beaucoup cette épreuve-là. Il faut aussi dire que, cette saison, on a eu la chance d'avoir plus d'épreuves diversifiées, mais disons que même dans Survivor, il y a toujours des moments où on finit quand même par avoir une épreuve physique. Donc, même si la majorité des épreuves doivent être diversifiées, il n'y a pas de mal à ce qu'il y ait au moins une épreuve physique de temps en temps. Après, j'aurais une grosse critique sur cette épreuve-là, c'est que si jamais ils tiennent à séparer hommes et femmes, je pense que ça serait mieux de mettre deux totems en jeu sur cette épreuve-là et pas de faire une finale un peu hybride qui change un petit peu à chaque fois. Parce que quand la finale hybride change un peu à chaque fois, c'est dur à dire, mais on se demande s'il n'y a pas une manipulation de la prod. C'est-à-dire sur cette saison-là, je ne le pense pas, mais la saison dernière... On se doutait que Jessica allait gagner chez les femmes, mais comme par hasard, il y avait une épreuve de dégustation en finale, tout le monde sait que Jessica est nulle à la dégustation. On avait quand même l'impression que c'était fait pour que le vainqueur du parcours masculin soit sûr d'avoir l'immunité. Et disons que voilà, c'est ce qui me dérange un petit peu avec le parcours du combattant, c'est que je pense que si jamais on veut le faire qui plus est tôt au niveau de la réunification, il faut deux totems plutôt que de faire une finale un peu hybride entre les deux. Même si ça fait pas l'épreuve la plus spectaculaire, même si là on a eu la chance d'avoir une superbe remontée de Loïc. On sait que c'est pas une épreuve très intéressante en termes de suspense, mais au moins, si on tient à garder la mythologie du parcours du combattant et se dire que c'est quand même bien d'avoir une épreuve physique de temps en temps, tant que c'est pas la majorité, faisons-le, mais pas de finale entre les deux, juste de totem.
En parlant de la finale entre les deux, bon, ça, je suis encore une très bonne intervention de Gino. La finale, donc, opposée... Loïc qui a brillamment dépassé Dorian dans la dernière ligne droite face à Alix, et d'ailleurs je tiens à dire que Ava a terminé deuxième, ça n'a pas été montré puisqu'elle a dépassé Lola dans le finish, et que pour quelqu'un qui n'est pas très sportif, c'est une très très belle performance. Et donc, l'épreuve qui départageait à la fois Loïc et Alix, c'était une épreuve d'équilibre. C'était l'épreuve, oui, une espèce de balancier où il faut prendre des pièces et les te faire tenir en équilibre sur un autre plateau. Et c'est une épreuve qu'on avait vue pour la première fois dans la guerre des chefs, d'ailleurs, qui opposait les trois chefs à l'époque où ils étaient dans les trois équipes. Et c'est une épreuve qui vient à l'avantage d'Alix, qui gagne donc le premier totem. Et je voulais revenir avec vous sur l'aspect un petit peu stratégique, parce qu'elle est très proche de Dorian. Et on a vu, par exemple, que Dorian est à l'origine de l'élimination de l'éliminer, qui est donc Adja. C'est que Brice est venu revoir Dorian en lui disant « Écoute, ton nom est soufflé, tu es peut-être en danger. » Dorian a forcé sur Adja et il a été plutôt suivi, notamment aidé par Alix qui veut des affrontements au mérite et qui lui a donné son collier. Alors, qu'est-ce que vous pensez, vous, de l'influence de Brice, de l'influence de Dorian et de celle de la personnalité d'Alix, puisque ce sont vraiment les trois personnages qui sont les personnages clés de cet épisode? On va commencer par Wilson.
Je pense que pour Dorian, c'est la bonne stratégie de viser Adja. Je pense que donner le collier aussitôt, j'aurais peut-être pas fait à la place d'Alix de donner le collier comme ça devant tout le monde, ça aurait pu être un meilleur coup, mais au final ils ont quand même réussi à sortir qui ils voulaient, donc on peut pas leur en vouloir. Mais pour eux, c'est normal de continuer sur ces stratégies. On est Dorian, on est Alix, le mérite, c'est la meilleure stratégie pour qu'on aille loin. Donc il n'y a pas vraiment de coups mal joués. Par contre, dans ce qui les entoure, il y a vraiment un souci de coordination et de réflexion sur le jeu. Certes, un verre est sorti, donc c'est plutôt positif pour les autres équipes qui étaient en minorité dans les quatre premières. Mais au final, il faut voir plus loin que ça. Et Adja qui sort, c'est pour nous les spectateurs quelqu'un qui pouvait un peu faire changer le jeu. Mais surtout, c'est une stratégie au mérite qui va peut-être maintenant commencer à prendre place de plus en plus autour de ce jeu, autour de cette réunification. Et ça risque de devenir très ennuyant par la suite.
Gino.
Alors, concernant la stratégie au mérite, j'ai souvent tendance à dire que la stratégie au mérite, c'est une alliance d'efforts qui ne dit pas son nom. C'est que en soi, une alliance d'efforts, stratégiquement, c'est une très bonne idée. Parce que si jamais les forts, physiquement, ne s'unissent pas un peu, ils savent qu'ils peuvent être très vite ciblés par ceux qui sont faibles physiquement. C'est-à-dire que les personnes faibles physiquement se disent que si jamais ils veulent gagner une immunité, ils doivent couper les têtes d'en haut. Et là, le problème, c'est que si jamais on est une tête d'en haut, on sait qu'il faut à tout prix éviter ça. Donc, en soi, une alliance d'efforts, c'est une très bonne contre-attaque. Après, le problème, c'est que l'alliance des forts se sert souvent du principe de mérite. Parce que, dans cette mythologie de Koh-Lanta dont on parle tant dans ce podcast, on met en avant beaucoup les capacités en survie et en sport. Et disons que le problème dans ce cas-là, c'est que on peut faire une leçon de morale à des candidats qui n'ont pas intérêt à suivre cette alliance des forts pour les forcer dedans. Et disons que c'est bien joué de la part de l'Alliance des Forts, hein. faut pas les condamner, hein. C'est une stratégie comme une autre, ils ont raison de le faire. C'est juste que forcément, comme c'est donné sous forme de leçon de morale, nous en tant que fans qui ne sommes pas vraiment dans cette mythologie-là, ça nous irrite, et puis ça nous donne l'impression que les dés sont un petit peu pipés contre les candidats un peu plus faibles physiquement, qui ont réussi par leur capacité en social et en stratégie à se glisser jusqu'à la réunification. Donc voilà, c'est vrai que cette alliance d'efforts, il faut reconnaître que c'est bien joué, mais c'est souvent très 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 énervant pour les fans qui ont un minimum de pensée stratégique. Ceci étant dit, voilà, pour revenir à l'épisode en lui-même, je pense que du coup, Alix et Dorian ont tout à fait raison de se mettre d'accord entre eux, hein, attention, ils ont raison d'utiliser tous les outils qui sont à leur disposition, et je pense que, en effet, Adja était vraiment la bonne cible. C'est-à-dire que, déjà, je pense que ça fait beaucoup plaisir à Alix, qui avait eu quelques affrontements avec elle. On se doute bien que son comportement sur le camp, ça n'a pas du tout aidé. Donc honnêtement, sur cet épisode-là, j'ai pas grand-chose à reprocher aux candidats, si ce n'est de pas être divertissant, mais bon, hein, ils sont là pour gagner 100 000 euros. Au bout d'un moment, on peut les comprendre quand ils font des choix un peu chiants.
Et enfin, Madar.
Complètement d'accord avec Gino sur l'idée que une alliance d'efforts dans Koh-Lanta, c'est très pertinent. C'est-à-dire clairement, quand on est fort, il faut se défendre contre les faibles. Parce que les faibles aussi peuvent s'allier, c'est un jeu de nombre. La force physique n'influence pas sur les conseils dans l'absolu. C'est ce qu'on en fait qui fait qu'on va voter dans un sens ou dans un autre. Après, je pense qu'il faut pas trop surestimer Alix et Dorian, ou même Brice, parce que enfin, je sais pas si on peut complètement compter Brice dans leur alliance, qu'il a pas voté comme eux. Je pense pas qu'ils soient dans une idée d'alliance de forts. Je pense qu'ils sont plutôt dans une idée, les jeunes sont alliés, et on vote au mérite. Ça va sans doute être contradictoire à un moment, mais pour l'instant, c'est le discours qui tient. Et le truc, c'est que comment est-ce qu'ils vont défendre ça sur le long terme, et comment ils vont se défendre quand ils vont se trouver en difficulté? Parce que pour l'instant, il faut quand même rappeler que Alix et Dorian, notre stratégie, c'est quand même débile, quoi. Je veux dire, les deux se sont fait avoir par un collier d'immunité sur un vote à l'unanimité. Je veux dire, alors c'est quand même la base de diviser les votes quand il y a un collier qui risque d'être joué, surtout quand on est d'accord unanimement. Alors ça donne pas vraiment d'indication positive sur leur capacité stratégique. Et pour l'instant, ils ont l'alliance majoritaire, tant mieux pour eux. Et je pense qu'ils contrôlent bien cette alliance majoritaire pour l'instant. Mais avec une stratégie aussi basique, il suffit qu'il y ait un petit retournement de situation à un moment pour que, en gros, ils se retrouvent complètement démunis. Parce que pour l'instant, on a Loïc, et lui, je sais pas du tout où il se situe stratégiquement. Parce que d'un côté, il veut pas voter avec les jaunes, il vote contre un jaune, mais il veut pas non plus voter avec les rouges, donc on sait pas trop. Je pense que Loïc n'a pas vraiment de stratégie, ce qui peut le rendre dangereux. Fabrice n'a pas voté non plus avec sa tribu. Donc ça fait qu'il y a déjà deux électrons libres. Et puis, faut pas oublier qu'on a encore épreuve éliminatoire, les binômes, et toujours les risques qu'à un moment quelqu'un se fasse évacuer, ce qui peut inverser cette tendance en faveur des rouges. Alors si jamais les rouges, ou rouges et associés deviennent majoritaires, comment font Alix et Dorian? Pour l'instant, ils n'ont pas montré qu'ils étaient capables de faire autre chose que gagner des épreuves. Et contrairement à ce qu'ils pensent, ce qu'ils semblent penser, gagner des épreuves, ça permet pas de gagner Koh-Lanta, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment, on peut gagner une épreuve pour soi individuellement, mais on protège pas sa tribu quand on fait ça. Donc, moi, je vais quand même beaucoup nuancer la nomination pour l'instant d'Alix et Dorian, et surtout sur le fait que la saison risque d'être prévisible derrière. Je pense qu'il peut se passer encore pas mal de choses. Mais en tout cas, ouais, Alix et Dorian, pour moi, c'est de très très mauvais stratèges. Et j'arrive pas à imaginer qu'il puisse y avoir une finale entre Alix et Dorian. Surtout là, s'ils sont sur cette idée de vote au mérite, qui fait que ça braque un petit peu ceux qui sont perçus comme pas méritants. Clairement, le coup à faire des leçons de morale, c'est pas seulement d'irriter les spectateurs, mais aussi d'irriter les candidats qui se retrouvent dans le jury. Quand on t'élimine en disant que t'es pas méritant, franchement, t'as pas envie de voter pour celui qui a dirigé le vote contre toi. Donc pour l'instant, voilà, et puis surtout quand il y a Dorian qui nous fait un petit peu caprice parce qu'on veut voter contre lui, parce que c'est plus fort, qu'il est plus indigne devant les caméras et tout, voilà, moi je pense pas qu'il y ait la moindre stratégie de leur part, je pense que c'est juste naturellement qu'ils votent comme ça, qu'ils se comportent comme ça, et que dès qu'on leur demandera d'être stratège, soit ils se rébelleront, soit ils se feront avoir.
Alors, on a vu donc Adja, qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, se fait assez peu apprécier socialement, et qui en plus intimidé, et qui est logiquement éliminé par des anciens jaunes qui sont en majorité, avec néanmoins donc, des votes blancs de la part de Loïc, qui ne pouvait pas se résoudre à voter un ancien vert, une ancienne verte, et Fabrice, qui a voté dans le vide, on ne sait pas pourquoi, ni comment, enfin voilà. Et on s'aperçoit qu'en fait, Laurent a plus ou moins trahi les anciens verts, même s'il dit lui-même qu'il n'avait pas forcément d'affinité avec Adja et qu'il n'avait pas promis justement qu'il resterait tout le temps ad vitam aeternam avec les verts. Est-ce que c'est une élimination, vous, qui vous a enfin, peut-être pas forcément surpris, mais qu'est-ce que vous avez pensé d'Adja? Moi, je pense que c'était une des candidates les plus divertissantes parce qu'elle apportait vraiment ce côté brut de décoffrage qui peut manquer souvent, avec les candidats de Koh-Lanta peuvent être souvent malheureusement assez lisse, et quelqu'un qui a un caractère qui est affirmé et qui n'a pas peur de le dire et qui est 100% elle-même, je trouvais que ça faisait du bien et c'était un personnage qui va manquer, voilà, donc maintenant on la verra dans le jury, mais j'aurais aimé la voir durer un petit peu plus longtemps, même si socialement elle s'est tirée un chargeur dans le pied, quoi. Qu'est-ce que vous en avez pensé, vous? On va commencer par Gino.
Alors, sur le personnage d'Adja en elle-même, je suis tout à fait d'accord avec Damien. C'est elle va énormément me manquer. C'est-à-dire que quelqu'un qui avait poussé à ce point-là le trash talk dans Koh-Lanta, c'était quand même très rare. C'est une femme forte de caractère, ce qui manque beaucoup dans Koh-Lanta, parce qu'on a tendance à les montrer beaucoup plus effacées. Enfin bon, on va pas faire un épisode, on va pas faire un aparté sur l'image de la femme de Koh-Lanta, sinon on a de quoi faire trois épisodes dessus. Mais disons que voilà, c'est vrai que c'est un personnage qui me manquait. Je veux dire, rien que le coup qu'elle aille dire qu'elle se foutait complètement du coup de téléphone des proches et que c'est pour ça qu'elle avait saboté l'épreuve. Ouah, quoi. Je pense qu'on n'a jamais vu quelqu'un d'autre dans l'histoire de Koh-Lanta être capable de faire ça et de pas être ciblé dans les 20 secondes qui suivent. Voilà, c'est un personnage vraiment unique et elle va énormément manquer à la suite de la saison. Ceci étant dit, pour revenir à un aspect plus centré sur le jeu, oui, sur l'épisode, elle a fait n'importe quoi. C'est-à-dire entre le coup du riz qui est vraiment... c'est vraiment quelque chose qui montre qu'elle est sans gêne, et disons que c'est quelque chose qu'il ne faut surtout pas faire pour donner une première impression aux gens de l'équipe d'en face, entre le coup des bananes qui était aussi un gros faux pas, entre le fait qu'en effet elle a peut-être été perçue comme celle qui guide le plus la stratégie, aussi le fait qu'elle se met beaucoup en avant et que le problème c'est que dans les épreuves elle l'a pas toujours justifié, c'est-à-dire bon, on a vu sur cette épreuve là où elle avait du mal à passer un obstacle. On a vu aussi l'épreuve où il fallait chercher les bouées pendant la première phase où elle avait été catastrophique. Enfin, elle n'avait pas été bien servie par la stratégie de son équipe, certes, mais elle avait quand même fait une très mauvaise performance. Et puis, il y a aussi le coup où elle a complètement abandonné cette épreuve pour les proches. Donc voilà, c'est vrai qu'elle a souffert pas mal de ces choses-là et je comprends vraiment pourquoi elle a été la cible évidente du vote. D'ailleurs, c'est ça qui a rendu la deuxième partie de l'épisode aussi ennuyeuse. C'est que le vote était évident et en plus les monteurs ont fait preuve d'aucune subtilité, c'est-à-dire la deuxième partie de l'épisode, le montage pour moi c'était le procès d'Adja, quoi. C'était pas un montage où on essayait de mettre du suspense. Et disons que sur un épisode de réunification, c'est pas le genre de montage qu'on a envie de voir, quoi. C'est-à-dire dans certains cas, le montage qui te donne l'impression que le candidat éliminé va à un dîner de cons, ça peut être très marrant, mais sur un épisode de réunification, un, ça fait mal au cœur, et puis deux, c'est Adja, on n'a pas trop envie que ça lui arrive, quoi.
Wilson.
Pour revenir sur Adja, il y a mon point de vue de spectateur. J'ai beaucoup apprécié Adja dès le premier jour. Son côté, comme disait Gino, franc du collier, son côté dur, son côté, elle ose dire les choses. Mais on savait depuis le début que ça n'allait pas lui apporter que des amis, et ça s'est vu directement à la réunification. C'était quelqu'un qui a trash talk, mais aussi pendant les épreuves, même si elle a fait des erreurs pendant les épreuves, elle a pas été au niveau qu'on l'attendait, parce que bon, c'est une sportive professionnelle quand même, mais ça veut rien dire, parce que les épreuves de Koh-Lanta, c'est pas un match de handball, mais c'est surtout, je pense, son comportement pendant les épreuves, son comportement dans la vie de tous les jours, sa manière de prendre de la place, comme elle dit, pas qui a dérangé, mais plutôt qui lui a mis une cible facile. Derrière, du côté joueur, Adja, tu veux pas la garder, parce que c'est une alliée qui peut, surtout dans Koh-Lanta où on est face à face entre équipes, c'est une personne qui va énerver les autres. Oui, c'est quelqu'un qu'on peut garder, mais du coup, sortir plus tard. Mais c'est pas la méthode de faire de Koh-Lanta. Et enfin, le coup du procès dans l'épisode, pour nous, c'est un crève-cœur parce qu'on aimait bien Adja. Mais je suis quasiment certain, même s'il y a beaucoup de gens qui aimaient ou un peu Adja dans les réseaux sociaux et dans le public, c'était une vilaine de la saison, dès le premier épisode. Donc, ils ont fait les épisodes en amont. Peut-être qu'ils auraient pu changer le montage à la dernière minute. Mais dans leur tête, Adja arrivait là avec un capital sympathie moindre que ce qu'elle a vraiment eu. Donc, c'était normal que son élimination soit aussi visible, je pense.
Et enfin, Madar.
Moi, je vais tempérer un petit peu sur le fait que Adja soit une candidate qu'on puisse apprécier et tout. Alors, oui, c'est vrai que c'est amusant, effectivement, comme dit Lino, du trash talk comme ça dans Koh-Lanta, c'est quand même pas souvent qu'on voit ça. Et c'est vrai qu'évidemment, c'était un petit peu cathartique quand elle s'attaque à des candidats qui nous irritent un petit peu. Ah, c'est vrai que nous, on se dit, ah, super, enfin, qui le dit. Enfin, une qui le dit, en l'occurrence. Après, ceci dit, sur les premiers épisodes, c'était quand même plus une boulie qu'autre chose, quoi. C'est-à-dire que, je veux dire, Alexandra, ça a été pris plein la gueule un petit peu à cause d'elle. Enfin, pas directement, mais plutôt dans le dos, quoi. Enfin, il y avait plein de trucs qui me gênaient au début, quoi. Dans le discours d'Adja, puis aussi sur l'idée, ouais, je vais, que tu voulais mettre un peu la pression sur ton équipe en disant c'est comme ça, en équipe, on fonctionne comme ça et tout. Oui, enfin bon, Koh-Lanta, c'est pas un jeu d'équipe, t'as pas insulté tes alliés pour les faire avancer. Et puis en plus, ça devient le truc que je. Du point de vue du jeu, c'est que c'est une très grande gueule, mais au final, elle a pas montré grand chose de bon dans son jeu. C'est-à-dire qu'elle dit oui, je suis bonne pour l'intimidation, bah, elle a pas réussi à intimider Loïc. Voilà, elle avait un discours un petit peu stratégique et tout ça, mais au final, bah, elle a pas mené une seule stratégie qui a fonctionné pour moi. Non, c'est-à-dire, voilà, c'est. Et puis, très très bonne en épreuve et tout ça, bah, elle a pas été si impressionnante que ça sur les épreuves. Même si, comme dit Wilson, les épreuves de Koh-Lanta, c'est pas comme un match de handball, c'est pas du tout les mêmes compétences qu'il faut et tout. Et effectivement, et comme dit Nasma sur le chat, c'est. Elle a surestimé ses capacités. C'est-à-dire qu'à un moment, elle a très très grande gueule, elle a beaucoup vouloir prouver qu'elle est bonne et tout. Et finalement, enfin voilà, elle a beaucoup vouloir dire qu'elle est bonne sans réussir à prouver derrière. Et après, sur le montage de l'épisode, qui effectivement manquait beaucoup de subtilité, c'est vrai qu'on était vraiment sur ce qu'on appelle un petit peu l'assassinat de personnage, quoi. C'est-à-dire que quand on a un personnage qui va quitter une série ou un film, pour nous faire passer la pilule, on va se focaliser à fond sur le négatif, on va rendre le personnage complètement détestable, pour qu'une fois qu'il est parti, bon, on le regrette plus. Donc avec les téléspectateurs lambda, ça marche, nous, ça fait plutôt le contraire, parce que c'est genre Corrida qu'on a envie de voir plus longtemps. Mais effectivement, après, c'est une manière aussi de raconter une histoire, pourquoi pas. Mais c'est vrai que c'est dommage, parce que nous, on avait des espoirs sur Adja par rapport à la place qu'elle pouvait occuper dans la saison. Mais bon, après, voilà, que je dis, la production, elle est là pour raconter une histoire aussi. Et puis c'est vrai que, ben, avoir une sorte de vilaine comme ça qui monte beaucoup, qui a une très grande gueule et puis qu'au final se casse la gueule complètement. Ouais, c'est vrai que ça peut être aussi une manière de raconter quelque chose qui est pas inintéressant.
Est-ce que, du coup, quelqu'un a quelque chose un petit peu qu'il voudrait dire ou rajouter sur cet épisode? Je vous invite à prendre la parole.
Ouais. Ben moi, j'aurais un petit peu aussi. J'ai une réflexion sur Laurent. Parce que c'est vrai que pour moi, c'est un personnage que j'ai un peu de mal à complètement cerner. C'est vrai que, un coup, on se dit c'est un génie de la stratégie. Et un coup, on se dit c'est un immense hypocrite. En fait, on n'arrive pas trop à savoir. Parce qu'un coup, il parle de stratégie, un coup, il parle de mérite. Et tu n'arrives pas à savoir s'il est sincère ou pas. C'est-à-dire, quand il parle de mérite, il le fait aussi devant les caméras en confessionnal. Ce qui semble. Supposer qu'il est sincère, parce qu'en général, quand on parle devant les caméras, loin des candidats, on peut supposer que le discours est à peu près sincère, même si c'est pas toujours automatique. Et en plus, ce qui me dérange avec lui, c'est que quand il parle de mérite, il le fait vachement sur le jugement envers les autres candidats, quoi. C'est-à-dire qu'il est vraiment en train de. On est à la limite du jugement moral pour justifier un vote. Ce qui est un des trucs que j'aime le moins dans Koh-Lanta. Et le truc, c'est que moi, ce que je pense sur lui, sur la petite réflexion, après, voilà, peut-être que c'est faux, c'est qu'il est stratège, mais sans avoir cette culture stratégique qu'on a dans le milieu des fans de Koh-Lanta. C'est-à-dire que nous, on a une réflexion sur les stratégies, qui nous viennent, nous, du fait qu'on analyse beaucoup les épisodes, et qu'en plus, il y a pas mal d'entre nous qui viennent de Survivor, où aussi, ils analysent encore plus la stratégie que nous. Et c'est vrai que lui, bah, il était stratège plus par bon sens, en fait. Et non pas par connaissance accrue du jeu, de comment on peut faire de la stratégie. Et ensuite, sur ses remarques concernant le mérite, le comportement sur le cœur, des choses comme ça, j'ai envie de dire, on est un peu dans un cas de, il a raison de penser et pas de le dire. C'est-à-dire qu'à un moment, effectivement, on peut penser que c'est chiant quand on est dans une tribu, quand on est sur un camp, bah, qu'il y en a quelques-uns qui ne fassent pas leur part du boulot, et c'est ce qui a été reproché à Adja, et ça je peux le comprendre, mais qu'à un moment, d'un point de vue du jeu social, c'est une énorme erreur pour moi. C'est-à-dire qu'à toujours râler, à toujours être dans le jugement comme ça, à toujours critiquer les gens en disant « mais t'en fous pas assez sur le temps », sur le fond, t'as raison. Mais on s'en fout que les critiques soient justifiées. C'est que Koh-Lanta, c'est un jeu social. C'est un jeu social et stratégique, et pour gagner, il faut arrondir les angles. Tu peux pas gagner en engueulant tout le monde, en critiquant tout le monde. À moins vraiment de, je sais pas, d'avoir la majorité des gens qui sont d'accord avec toi. Mais c'est vraiment un coup à se... C'est-à-dire que Laurent, c'est typiquement, alors je sais pas du tout qui va être la suite de la saison, mais Laurent, c'est typiquement le genre de candidat qui peut se retrouver en finale et grâce à sa stratégie et tout ça, et qui par contre va perdre parce que ben il aura saoulé tout le monde, quoi. Donc voilà, j'ai du coup, voilà, c'est pour ça que j'arrive pas trop à comprendre, à complètement cerner Laurent. J'ai quelques pistes de réflexion, mais voilà, c'est pas. Je pense qu'il sera un personnage fort de la saison, mais ça reste encore un peu une énigme.
Wilson, vas-y, tu voulais dire.
Ce que je voulais dire, c'est par rapport au vote, c'est assez intéressant parce qu'on a vu Loïc complètement voter dans le vide, comme s'il refusait de jouer. Je me dis, c'est quand même assez curieux. Est-ce qu'il va prendre... On en parlait, mais faut vraiment qu'on parle du fait que, bon, il est arrivé dans le jeu et il refuse la partie la plus importante du jeu, qui est de voter à la fin. Donc je me dis, la position que va avoir Loïc, est-ce que c'est une position qui va agacer ? Est-ce que Dorian, par exemple, va être agacé du vote contre lui ? Est-ce qu'il était au courant vraiment jusqu'au bout ? Est-ce que... quelle position il va avoir ? Il a un peu le cul entre deux chaises, comme on dit. Et ça va être assez intéressant à voir. Et même chose pour Fabrice, on parlait d'électron libre. Mais Fabrice, lui, il vote complètement à côté de la plaque. Je ne sais pas quelle était l'intention. Mais Dorian, il y a une véritable intention de ne froisser personne. On sait qu'on ne peut pas ne froisser personne jusqu'au bout. Donc qu'est-ce que va faire Loïc ? Comment il va réagir ? Comment il va agir avec ses deux équipes ? Ça va être assez intéressant. Et je pense qu'au niveau des votes, on va avoir peut-être des surprises un peu plus loin.
Gino ?
Alors pour Fabrice, je pense qu'il ne faut pas aller beaucoup plus loin. Il était dans la même tribu qu'Angélique au début, tout simplement. Donc je pense qu'au moment où il a entendu dire que Loïc allait faire la même chose pour les Verts, je pense qu'il a voulu faire la même chose pour Angélique. Et puis c'est tout à fait compréhensible. Après, je pense tout de même que ce type de vote qu'on peut considérer comme des votes blancs, j'ai toujours tendance à penser que c'est une mauvaise idée. C'est-à-dire que tu montres au reste de ton alliance que tu n'es pas si fiable que ça. Et disons que dans une alliance, il n'y a que 4 ou 5 personnes qui peuvent aller en finale. Donc si jamais tu es le 6e ou le 7e, c'est vraiment une très très mauvaise idée de faire ça. Donc honnêtement, je ne pense pas que ce soit une bonne idée de voter blanc dans Koh-Lanta, quelle que soit la raison. Après, on peut se tromper. C'est-à-dire, par exemple, si je me rappelle bien, Moussa avait plus ou moins fait un vote blanc l'an dernier. Il était en très bonne position. Il s'est juste planté à l'orientation. Donc vraiment, je pense que c'est peut-être un peu lié au fait que je sois habitué à Survivor, où là, voter blanc, c'est le pire suicide qu'on puisse faire. Mais disons que, voilà, ça me semble pas être une bonne idée, même si y a des précédents qui semblent montrer que dans Koh-Lanta, c'est peut-être pas aussi grave que ça. Mais voilà, c'est quelque chose qui m'a pas vraiment surpris venant de Loïc et venant de Fabrice. Mais vraiment, c'est quelque chose qui... Oui, je vois que Nasma dit que c'est du jury management, mais le problème, c'est que il faut quand même finir par y arriver devant le jury. Et quand tu es à ce stade-là du jeu, que tu es dans une alliance de 6-7 personnes, t'as vraiment pas envie de te foutre en dernière place de l'alliance. Après, tu peux peut-être compter sur le fait que, avec les twists, enfin avec les altérations de format, comme les épreuves éliminatoires, comme les binômes, comme un éventuel collier qui pourrait tomber de l'équipe d'en face, que tu peux remonter mécaniquement, mais c'est quand même un pari que je trouve assez risqué.
Moi, j'aimerais bien rebondir sur ce que justement ont dit Wilson et Gino, sur ces histoires de vol blanc, parce que c'est vrai que Gino dit, Fabrice, il voulait juste pas voter contre Angélique parce qu'il vient de la même tribu. Finalement, Loïc, c'est peut-être la même raison, en fait. Il voulait pas voter contre Adja parce qu'il venait de sa tribu. Et c'est là que, du coup, si on sort un petit peu de ces deux cas particuliers, peut-être que ça décide un début de tendance pour la suite de la saison. Enfin, j'espère, en tout cas. Là, peut-être que c'est du wishful thinking, comme on dit, donc j'espère, donc du coup, je le pense. C'est un petit peu... C'est là qu'on va voir. Certes, on a les jaunes contre les rouges, mais les anciennes tribus n'ont pas complètement été effacées. C'est-à-dire peut-être que si jamais Alix et Dorian disent au prochain épisode on doit bien voter contre Bertrand Kamel, peut-être que là, Alexandra et Laurent vont dire « Ah ouais, mais non, la Bertrand Kamel, non, ça ne va pas. » Ouais, donc du coup, peut-être que voilà, c'est peut-être ça qu'il faudra prendre en compte. Ou s'ils disent « Tiens, on va voter contre, je sais pas, contre Ava », peut-être que là, Alix va dire « Ouais, non, je sais pas, j'ai peut-être pas trop envie. » Peut-être que justement, à un moment, les anciennes tribus vont peut-être pas redéfinir complètement les alliances, mais vont peut-être un petit peu faire capoter certains votes prévus. Ou protéger des candidats qui normalement doivent être en danger. Et du coup, pour revenir sur Bertrand Kamel par exemple, le fait qu'il y ait une énorme cote de sympathie, peut-être que ça va faire que les jeunes ne vont jamais l'éliminer. Et que du coup, ça va peut-être nous permettre de sortir un petit peu de ce format les rouges contre les jeunes. Donc voilà, c'est ma petite analyse vite fait sur la situation.
Alors, pas ce sujet, mais toujours sur l'épisode. Il y a quelque chose dont on n'avait pas parlé tout à l'heure et qui me semble quand même être un petit point sujet à discussion dans cet épisode-là, c'est la manière dont le collier d'immunité d'Alix a été utilisé. Bon, déjà de base, je tiens à rappeler que je trouve complètement idiot de faire des colliers qui ont une date d'expiration autre que la finale, mais bon, là, je pense que ça n'est pas le sujet principal, mais c'est que j'ai l'impression que, pour moi, Alix, elle n'a pas bien joué son collier. C'est-à-dire que là, on était sur un 7-5-1-1 sur le vote. Ce qui veut dire que la majorité qu'avaient les jaunes était vraiment très, très, très faible. Du coup, je pense vraiment que Alix a perdu une bonne occasion en ne le jouant pas de manière surprise et en protégeant Dorian par avance. C'est-à-dire elle a donné quelques heures au rouge pour tenter un autre plan. Heureusement pour elle, ça n'a pas marché. Mais pour moi, honnêtement, je pense que c'est une erreur. Après, peut-être que Alix s'est un petit peu laissée emporter dans l'euphorie de la victoire et qu'elle n'a pas fait le... Ah, je vois sur le chat que certaines personnes ont vu que Denis avait posé la question après la victoire. Donc, dans ce cas-là, oui, je comprends que Alix se soit laissée emporter. Mais je pense quand même qu'elle aurait dû masquer ses intentions. Mais après, oui, l'euphorie de la victoire, je pense que ça n'aide pas.
Alors, puisque c'est terminé sur ces belles paroles de Gino, je vous propose que l'on passe tout de suite à un Kikadi un peu spécial. Je lance le générique.
C'est l'heure du
Kikadi.
Alors, Vafriz n'étant pas là aujourd'hui, on va faire un Kikadi donc un peu spécial, puisqu'il va pas porter sur l'épisode, mais sur toutes les saisons de Koh-Lanta. Donc là, la règle elle va être un petit peu différente, c'est-à-dire je vais vous donner 5 phrases. Et vous allez devoir non seulement trouver qui qu'a dit, mais aussi la saison à laquelle cette personne s'est exprimée. Est-ce que ça va pour vous, les règles, Gino, Madar et Wilson ?
Ça va être très chaud.
Oui. Ça va être compliqué, mais...
Voilà, on va upgrader un petit peu, ça va être rigolo. Alors ça, peut-être que vous allez le trouver, du coup, la première. Je vote contre toi parce que t'es pas bon à la belote.
Ça dit quelque chose, ça.
Donc, indice, on est plutôt sur des années 2000. Hein. Ça a été trouvé dans le chat.
Voilà, je vais regarder dans le chat, alors.
Laurent.
Laurent Palawan.
Oui, alors, qui a dit Laurent en premier? Je crois que c'est Wilson. Voilà, et ouais. Du coup, Laurent Palawan, ouais, donc, du coup, ça fait un point Madar et un point Wilson.
Merci Icarou, du coup.
Ben voilà.
Donc, merci Icarou, du coup, d'avoir soufflé la réponse.
Ah non, c'est Dr. Strange qui a dit Laurent. Non, il y en a plusieurs qui ont dit Laurent, puis c'est Icarou qui a dit Palawan.
Oui. Bah, du coup, oui, aujourd'hui, je pense que c'est le chat qui joue, quoi.
On va leur donner les
points. Bon, voilà. Donc, écoute, merci le chat. Et du coup, un point pour Wilson et un point pour Madar. Là, ça va, je pense, être un petit peu plus facile. Shirley, Charlène, Charnel, Charène, Sherilan.
Alors, c'est juste que je sais retrouver la saison. Alors, c'est dans saison 8 et c'est, comment il s'appelle, Hakim.
Eh ben, bien joué, Madar. Ça fait 2 points en plus, ce qui fait 3 points. 3 points pour Madar, bien joué. Ensuite. Je pensais être con, mais je le suis pas.
C'est Laurent dans la nouvelle édition.
Putain, encore 2 points pour Madar.
Madar seul en tête.
Du coup, ça fait 5 points et je crois que tu passes en tête et que tu les frappes tous. Je pense qu'on va devoir inviter Jade à chaque semaine pour qu'il te rattrape maintenant. Et enfin, on va faire une petite dernière.
Allez.
Une petite dernière, allez. Je te connais pas, peut-être qu'en te donnant 100 000 euros, on sera peut-être copains.
Clémentine. Non. Moi j'ai vu le chat donc je réponds pas.
Oh Wilson. Non mais c'est pas grave, au contraire, vas-y.
Moundir saison 3, c'est
ok, écoute, 2 points pour Wilson qui se retrouve avec 3 points. Kikadi un petit peu particulier aujourd'hui en l'absence de Freeze, ouais. Donc on s'est organisé. Et voilà, je me suis dit que ce serait marrant de vous déstabiliser un petit peu en vous proposant des choses sur toutes les saisons. Et je pense que ça a été. Vous avez apprécié le move.
Moi, j'ai apprécié, mais je ne passe en tête.
C'était beau.
Et du coup, forcément, on fait comme à l'habitude, on va remettre le petit jingle parce que Wilson a fait de l'excellent boulot.
C'est l'heure du.
Qui a dit ?
Et par contre, je relance mon idée, moi, que j'ai proposé la semaine dernière, de faire un jour un Kikadi, mais sur ce qu'on dit les intervenants du podcast.
Ah, alors ça. On fera ça à la fin de la saison.
Voilà, qui se sent motivé pour réécouter tous les podcasts pour trouver des phrases.
Mais je veux dire, on va trouver ça. Bah, tiens, sur les trois dernières saisons, ça risque d'être un petit peu drôle. Bien du courage pour trouver des trucs. Ce serait drôle de faire des phrases, c'est complètement random, tu sais. C'est-à-dire des phrases, c'est-à-dire complètement random que...
Ouais, ça n'a rien à voir. Bah, si... Donc, de toute façon, c'est simple. Trouver, si on parle de... Si on parle de mythologie Koh-Lanta, Gino, retenez ça.
Si on dit Nick le mérite, c'est Damien.
C'est ça. Bah, Nick le mérite, hein, toujours. Hein. Il serait bien que les candidats de cette saison s'en rappellent. Du coup, cet épisode touche à sa fin, messieurs. Bah, déjà, je vais vous remercier d'être intervenu. Là, donc, Gino, d'être un petit peu le partenaire de notre relaxation. Merci beaucoup.
Merci Damien, merci à tous.
Madar, un petit peu, qui n'a pas fait de jeu de mots. Madargine Ruquier, comme on l'appelle sur le Discord. Merci beaucoup, Madar.
J'ai absolument pas validé ce changement de pseudo. Je pense que c'est Gino qui m'a fait ça, mais en tout cas, merci de m'avoir invité.
Oh, est-ce que, quelque part dans ton cœur, tu ne te dis pas que tu l'as peut-être un petit peu mérité?
Non, mais j'assume parfaitement mes points communs avec Laurent Ruquier. C'est juste qu'après, je sais pas, j'aime bien que ce soit un peu plus subtil, un peu plus organique.
Ah bah écoutez, c'est une belle vision, c'est un beau parti pris que tu as là. Donc Madar, encore merci. Et enfin, non pas Wilson Ruquier, parce que ça n'aurait aucun sens, mais Wilson Santos de Podcast Sport. Donc tu peux nous rappeler ce que c'est Podcast Sport ?
Alors, Podcast Sport, c'est un podcast qui a plusieurs émissions où on parle dedans de sport, autant pour les gens qui s'intéressent de manière irrégulière et casual, que de gens qui peuvent être passionnés, où on peut parler pendant 50 minutes ou des petites histoires de 10 minutes. Il y a un peu de tout. C'est assez diversifié et assez facile à écouter, je pense. Enfin, en tout cas, il n'y a pas une idée d'être autant précis que dans d'autres podcasts.
Donc, on peut te retrouver sur toutes les applis de podcast, sur Spotify, Deezer, Apple Podcast et compagnie, sur Podcast Sport, c'est ça ?
Absolument. C'est ça, Podcast Sport, et sur toutes ces plateformes, c'est trouvable, et sur les réseaux aussi, donc c'est assez facile.
Très bien. Eh ben, écoutez, moi, en ce qui concerne, j'ai été content d'animer cet épisode avec vous, comme tous les dimanches. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour l'épisode 9, avec normalement une épreuve éliminatoire, donc on va encore bien rager. Et c'était Damien, et je vous dis à la semaine prochaine.